Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On évoque leurs principes de vie, leurs trucs, leurs rituels, leur philosophie même. Et mon objectif, vous l'aurez compris, c'est de vous aider à progresser via l'aide de ces mentors virtuels à devenir la meilleure version de vous-même. Mais passons maintenant à mon invité du jour, qui n'est autre que Manuel Diaz, fondateur et CEO de iMachina. Vous pourrez le retrouver sur son site manueldiaz.com, où vous aurez tous ses contacts, son podcast, sa chaîne YouTube et tous les très très nombreux contenus qu'il crée et que je vous invite à découvrir parce que franchement, il y a beaucoup beaucoup de très très bonnes choses. Si vous voulez le contacter directement en revanche, ça se passe plutôt sur Instagram et sur LinkedIn à Manuel Diaz. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes du podcast sur le blog du Gratin. Vous pourrez le contacter donc à ses adresses et vous serez peut-être étonné, mais c'est bien lui qui répond directement à ses commentaires. Alors, qui est Manuel Diaz? Eh bien, autodidacte, boulimique de littérature, grand pragmatique aimant braver les interdits, il n'a qu'une obsession, ne pas laisser le temps lui filer entre les doigts. On en a trop peu, c'est une ressource qui est bien trop précieuse, alors il faut aller vite, très vite, et toujours avoir une conscience aiguë du temps qui passe, et du fait que choisir, c'est renoncer. Passionné d'informatique dès son plus jeune âge, Manuel crée sa première boîte à 18 ans. Il n'a que le bac en poche, mais il n'a pas de temps à perdre avec des études à rallonge. Pour lui, l'action est reine. En 20 ans, Manuel aura construit un véritable empire dans le monde du digital. Aujourd'hui, présent dans 20 pays et avec plus de 1000 collaborateurs, le groupe iMachina, donc fondé par Manuel, fait partie des agences digitales les plus reconnues au monde. Vous imaginez qu'on a eu énormément de choses à se dire. En tout cas, moi, j'avais plein de questions pour Manuel et on a donc parlé des facteurs clés de succès d'iMachina dans un secteur qui est quand même hautement concurrentiel. On a parlé de sa vision de leadership, de délégation et pourquoi l'entrepreneur doit apprendre à se rendre complètement inutile. On a aussi parlé de croissance à l'international et de ses conseils pour y arriver, de structuration d'un groupe, de pourquoi il faut toujours voir grand, d'utilisation de son temps ou encore de comment vaincre sa timidité. Manuel est passionnant, vous allez voir, et j'aurais pu discuter avec lui pendant des heures. C'est une personnalité qui est franche et atypique, comme je les aime. Je pense que vous serez certainement impressionnés comme moi par son pragmatisme mêlé d'audace. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Manuel Diaz. Bah salut Manuel, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Pauline.
Merci de m'accueillir dans cet immense bureau qui est magnifique. Bon, un peu vide en ce moment, faut le dire. Mais...
C'est vrai.
Mais bon, c'est la période qui veut ça. Tu es ma première interview post-confinement, donc je suis très contente de pouvoir te voir en vrai. Ça me fait assez plaisir, je peux te dire.
C'est de la reconnexion humaine.
C'est ça.
On a été très connectés les uns et les autres online, mais là, c'est de la reconnexion humaine. Ça me fait plaisir aussi de te voir. D'habitude, je t'écoute. Et là, ça me fait plaisir de te rencontrer. Merci de m'accueillir.
Je voulais commencer, si ça te va, Manuel. Non, j'ai lu plein de choses sur toi, j'ai fait mon homework, j'ai écouté beaucoup de tes contenus aussi, qui sont top. J'ai lu sur le web, je me rappelle plus où, que l'un des moments marquants de ta carrière, c'était l'intervention que tu avais faite après Seth Godin, la légende du marketing, sur une scène d'un événement international. Mm-hmm. Et en fait, si ça te va, je voulais juste que tu reviennes sur le contexte de ce talk. Mmh. Et puis, qu'est-ce que tu avais ressenti? Parce que je peux imaginer que... Enfin, j'ai l'impression en tout cas, quand je lisais ce que tu avais écrit, que c'était vraiment un peu le achievement, tu vois, finalement un événement qui avait été très marquant dans ta carrière. Donc, je voulais comprendre pourquoi.
Ben, c'est vrai, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, Seth Godin. On est nombreux à l'avoir lu, en fait. Ouais. Il a écrit des trucs absolument fantastiques. Pour moi, il y a Permission Marketing, qui est absolument extraordinaire. Tout le monde parlera de Purple Co. aussi, mais pour moi, permission marketing, c'est vraiment les fondamentaux de comment on doit s'adresser aux autres dans notre industrie du marketing et de la com. Et un jour, je suis invité, je sais plus trop par qui, en tout cas mon agent qui s'occupe des talks me dit Manuel, il y a un talk sur le luxe et le digital, sur l'expérience utilisateur, comment le luxe doit approcher le digital, etc., etc. Est-ce que ça t'intéresse? Je lui dis bah pourquoi pas, envoie-moi le line-up de speakers, l'agenda de la journée, etc. Et il me dit bah tu interviendrais juste après Seth Godin. Je lui dis pardon, tu peux répéter. Et oui, c'était absolument extraordinaire. Alors évidemment, tu te doutes, quand on a fait les calls en amont pour caler les speakers entre eux, t'entends la voix de Seth Godin qui est là, tu vas à l'événement, tu discutes avec lui avant, t'assistes à son talk. Après, on a discuté assez longuement ensemble. J'ai évidemment, en tant que bon fanboy, ma photo de souvenir, etc. Mais oui, c'est un peu fascinant. Mais j'ai de la chance, moi. Je suis un super chanceux. Je fais un métier dans lequel je suis amené à rencontrer des gens extrêmement talentueux. Et à les fréquenter de près, puisqu'ils ont souvent besoin de nos services pour leurs projets. Et donc, j'ai eu l'occasion dans ma carrière de... Je parle comme un vieux, là, un peu quand même.
Non, avec beaucoup de sagesse.
Mais j'ai commencé tôt, en démarrant à 18
ouais,
ans. Voilà. Mais j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens extrêmement brillants et d'avoir la chance d'avoir leur confiance pour m'occuper de leurs coulisses avec mes équipes. Et ça, c'est fascinant quand tu peux mettre les projecteurs sur des gens très brillants pour faire en sorte qu'ils soient encore plus compris, encore mieux entendus. C'est génial, en fait.
C'est clair. Ce réseau que tu as dû construire, on va en parler après, mais ça a l'air d'être assez impressionnant. Si ça te va, justement, tu me parlais un petit peu du début de ta carrière. Je veux bien aller faire un petit retour en arrière et commencer à parler de ta jeunesse. Si tu peux me dire dans quelles circonstances, on va dire, t'es né. Je crois que t'es pas parisien du tout de base.
Non, pas du
tout.
Mais
tu me dises justement, comment c'était en fait quand t'étais petit? Qui était le petit Manuel? À quoi il ressemblait? Est-ce qu'il était déjà à fond tout ce qui est marketing et tout comme ça? Est-ce qu'il était très extraverti? Pas du tout. Enfin, voilà ce que tu peux me dire sur toi plus jeune.
Écoute, j'étais pas du tout extraverti à un point où on s'est quand même posé la question de savoir si j'étais à peu près normal quand même.
Parce que qu'est-ce qui s'est passé? T'as parlé tard ou...
J'étais très peu bavard, même dans le contexte familial. J'ai un grand frère qui, lui, est beaucoup plus extraverti. Deux enfants très différents. Et on m'a quand même un peu regardé de près pour savoir si je répondais à des normes humanoïdes, en fait. Donc voilà, non, je suis tombé amoureux de la technologie, des machines assez vite. Moi, je viens du code. Ça, c'est ma passion.
Mais tu te rappelles comment t'es tombé là-dedans? Parce que franchement, je veux pas te vieillir artificiellement. Ouais. Mais bon, tu vois, à l'époque, un enfant, il y avait quand même pas grand-chose. T'as quoi? T'as eu des premiers Atari, des choses comme
ouais,
ça?
J'ai eu un premier ordi, un Amstrad, et puis ensuite un Commodore, Amiga.
Et toi, etc., spontanément, etc. Tu dis à tes parents, je veux un ordinateur.
Ouais, et puis moi, je viens pas du tout je viens d'un milieu moyen français. Mon père était artisan, ma mère dans le commerce. Tu vois, pas de facilité particulière. Avoir un ordinateur, c'est déjà... surtout à l'époque, ça coûtait cher, quoi. Et donc, j'essayais d'en tirer profit à maximum. Donc, il fallait absolument que je sache comment il fonctionne, que je sache comment lui parler, etc., etc. Et puis, j'étais effectivement très, très introverti, en fait. Donc, plutôt bon élève. Je faisais ce que j'avais à faire. Et après, il y a eu des facteurs déclencheurs. On a tous des moments de rupture dans nos vies comme ça. L'histoire a fait que je suis allé en Angleterre assez souvent. Pendant les vacances scolaires françaises, j'allais en Angleterre. Et là, j'ai découvert à la bibliothèque, j'allais dire la librairie, mais c'est du franglais, à la bibliothèque, j'ai découvert les premiers ordinateurs connectés. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'ordinateur devenait encore plus intéressant parce que on pouvait envoyer un message dans la pièce d'à côté ou à l'autre bout du monde. Et ça devenait fascinant. Et là, ça, tu vois, Ça m'a ébloui pour le reste de ma vie.
Et tu dirais que tu avais quel âge à cette époque? C'était vers 14-15 ans, quelque chose comme
J'avais 11-12 ans.
Ah ouais. Donc en fait, tu te mets très très tôt à t'intéresser tout simplement au secteur de l'informatique à l'époque, à commencer à coder, à commencer juste à vraiment à t'intéresser à ça. Et qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, si j'ai bien lu ce que je crois avoir lu sur toi, vers l'âge de 18 ans, tu te dis ok, c'est bon, maintenant je crée ma boîte, justement dans les services web, avec ton frère en plus, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui fait que tu te dis non seulement en fait j'aime bien ça, je m'éclate, mais je peux carrément en faire un business, et puis surtout à 18 ans. Enfin, d'après ce que je comprends, tu ne venais pas forcément d'une famille d'entrepreneurs non plus.
Non,
donc
pas du tout.
Qu'est-ce qui t'a donné, si tu veux, cette envie folle de se dire « je veux en créer un business
» En fait, ça tient en un mot, ça s'appelle la passion. C'est-à-dire qu'elle est, quand elle est dévorante, je n'envisageais pas faire autrement. Alors j'ai eu mon bac un peu plus tôt que la moyenne, je me suis inscrit en médecine, ça faisait plaisir à ma maman de rêver d'avoir un fils médecin. Bon, j'ai pris les cours d'un deuxième année, il fallait apprendre par cœur, j'ai appris par cœur, mais ça m'a servi à rien, si tu veux. Non, ça sert jamais à rien du tout, mais c'était pas ce que je voulais faire. Pendant ce temps, je faisais le business plan de la boîte. Alors, j'ai évidemment embrigadé mon frère dans cette affaire, parce que c'est mon aîné, et que quand t'as 18 ans, t'as quand même besoin de crédibilité, et c'est quand même plus facile. Mais non, je voyais pas d'autre option possible. C'était vraiment ma passion. C'était le début de l'internet commercial. On est à la fin des années 90, en 97. On voit que le web est en train d'avancer, même si les Français nous opposent le Minitel, parce que c'est ce qu'on m'a dit à la banque. On m'a dit, ça marchera jamais. Internet est un repère de pédophiles. On n'est pas très loin de l'affaire du trou, etc.
Ouais.
Donc, Internet est un repère de pédophiles. Le Minitel, on gagne de l'argent. Il y a un business model, on paye à la minute, machin, etc. Donc, bon, voilà.
Et donc, refus de prêt bancaire?
Ah oui, plusieurs. Ouais, plusieurs. Il a quand même fallu beaucoup insister pour arriver à trouver une solution et s'endetter personnellement. Et je voudrais remercier mon grand-père, même s'il n'est plus là, parce que sans son aide, et mon père, sans son aide, je pense que la banque n'aurait pas suivi. Donc c'est les petites économies familiales qui ont poussé le banquier à dire bon écoutez, j'ai pas tellement envie de perdre des clients, donc on va aider les petits jeunes, même si on comprend rien à ce qu'ils nous racontent. Et donc c'est cette passion dévorante qui m'a poussé à ça. Et puis en même temps, j'avais un raisonnement assez simple qui laissait penser que si ça marchait pas, étant jeune, je pouvais changer d'orientation, reprendre des études, faire autre chose, etc. Mais je pense que ça fait partie de ces facteurs. Tu es entrepreneur aussi. Alors moi, je dis entrepreneur même pour les femmes, je veux vexer personne. Donc, tu sais, quand tu as cette idée que ce truc est en toi, ça va pas s'arrêter, en fait. Tu sais que tu t'endors en y pensant, tu te réveilles en y pensant, toute la journée, c'est une attitude. Et tu vas y sacrifier à peu près tout ce que tu peux y sacrifier. Et d'ailleurs, pour toi, ce ne sont pas des sacrifices. Les autres te regardent en te disant, mais t'es taré, t'as pas de vie, tu passes à côté de ta jeunesse, alors t'as tout un tas de gens qui te disent que t'es en train de faire n'importe quoi, et moi plus j'entends ça et plus ça me motive. Parce que quand on a cette passion là de s'accomplir finalement, on se dit il y a rien de plus épanouissant, donc je voyais pas d'autre option.
Ouais, tu voyais pas d'autre option, c'est vraiment ça. C'est top. Enfin, je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes. Et en fait, j'y étais vachement sensible et j'étais super contente de pouvoir t'avoir au micro du gratin, parce que je reçois souvent des messages de jeunes qui me disent est-ce que je me lance, je suis trop jeune, tu vois, cette espèce de complexe en fait, de syndrome de l'imposteur permanent. Alors toi, ça faisait quand même des années, c'est pas venu tout seul, que tu codais, donc tu connaissais déjà entre guillemets le métier, mais ça t'a pas empêché, et non seulement ça t'a pas empêché, mais on voit le succès que t'as aujourd'hui. Du coup, si on arrive à prendre un peu de recul, je voulais te demander le fait d'avoir finalement arrêté tes études à ce moment-là et de t'être consacré à ta boîte, est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes, au contraire, que tu trouves qui a été un des facteurs clés de succès de ta carrière? Est-ce que c'est quelque chose que tu peux conseiller? Enfin, quelles sont tes réflexions sur ce sujet?
Ça dépend beaucoup des gens, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs natures de personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'être adoubés. Pour moi, les études, c'est ça. C'est l'étiquette à l'oreille pour dire la belle viande rouge. Mais ça ne veut pas dire que ces gens sont très bons ou très mauvais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire qu'ils ont suivi le parcours d'acquisition de connaissances prédéterminées, inventées depuis des centaines d'années, qu'on appelle l'école, qui est pour l'instant la moins mauvaise des façons qu'on a trouvées pour transvaser des connaissances d'un endroit vers un autre, d'un cerveau vers un autre. Mais c'est pas ça ne veut rien dire sur les qualités de quelqu'un. D'ailleurs, nous, chez Imakina, on recrute sans diplôme, sans CV, parce que ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que savent faire les gens concrètement et qui ils sont. Ce qu'ils connaissent dans notre monde d'aujourd'hui, ça n'a plus beaucoup de valeur. Parce que ce qu'ils savent à un instant T et sera plus d'actualité dans 3, 4 ou 6 mois. Donc il faut de toute façon être dans l'apprentissage permanent. Il faut être dans une boulimie de connaissances. Et c'est dur. C'est dur. C'est comme du sport, en fait. Tous les jours, il faut apprendre de nouveaux trucs. Tous les jours, il faut se remettre en cause. Tous les jours, il faut se dire qu'il y a un petit jeune qui va vouloir nous pousser hors du marché et qui est moins encombré, a moins d'impératifs, est capable de plus de sacrifices, etc., etc. Et c'est ça qui est excitant. Moi, j'adore ce côté hustler. Ce qui est excitant, c'est de se remplir le cerveau à maximum et puis aussi se prendre des calottes. Parce que bon, bah on te dit, tu vas te planter. On te dit, tu vas voir, quand tu vas toucher le platane, là, ça va quand même faire mal. Les airbags vont se déclencher, tu vas t'en prendre plein la tête. Mais tant que tu t'es pas pris 2-3 bons airbags dans la tête, tu sais pas quelle est cette douleur, en fait. Et pour revenir à ta question, je pense qu'il n'y a pas de modèle. Il faut surtout regarder à qui on parle, en fait. Il y a des gens qui ont besoin de faire des études pour se rassurer. Il y a des gens qui peuvent s'en affranchir. Moi, ça a créé chez moi... le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que comme t'es pas, t'as pas le label, t'as pas tamponné la gueule, il faut que tu sois meilleur que les autres. Donc j'ai plus bossé que les autres. Quand j'étais intervenant dans des écoles prestigieuses, alors que j'avais pas le diplôme que...
Bah, tu dois quand même avoir une petite fierté, quoi.
Ben, en fait, tu te dis, mais c'est dingue. C'est dingue. Et je commençais mes cours d'ailleurs en disant, mais je suis sous-qualifié par rapport à vous, mais on va quand même essayer d'échanger et d'apprendre des trucs ensemble. Donc, tu vois, le parcours linéaire, c'est pas tellement ça, mais il y en a qui en ont besoin, d'autres moins. Ça dépend vraiment de ton caractère, je trouve. Et il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et je trouve que on fait trop de jeunisme en ce moment. En ce moment, d'ailleurs, il y a une vague qui dit « si t'es pas entrepreneur, t'as raté ta vie ».
Ah bah là, en ce moment, c'est... Ouais.
Je trouve ça proprement insupportable. De la même façon que je trouvais insupportable ce que l'image sociale était de l'entrepreneur quand moi, j'ai commencé. Quand moi, j'ai commencé à la fin des années 90, donc le web n'a pas fait son œuvre, le mot start-up n'existe pas, enfin, on ne sait pas ce que c'est, etc.
Entrepreneur, etc. C'était entrepreneur du BTP, de toute façon.
C'est ça, c'est exactement ça. Et on te regardait en disant « tu montes ta boîte ? Ah ouais ?» Ça veut dire qu'il y a vraiment, tu dois être tellement nul que personne veut te donner un job, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as quand même pas essayé à la mairie, aux espaces verts ou un truc comme ça. Tu vois, ça me fait penser à Brel.
Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, je t'avoue que je me rappellerai pas qui m'a dit un entrepreneur à l'époque, c'était soit quelqu'un qui avait pas le choix, soit quelqu'un qui avait pas besoin. Parce qu'en gros, c'était soit des gens qui avaient pas mal de sous et du coup qui avaient pas besoin ils pouvaient vivre de leur passion. Et puis ceux qui n'avaient pas le choix parce que bah, vraiment, en fait, ils étaient obligés, soit ils étaient tellement passionnés qu'ils étaient obligés de bosser dans ce secteur, soit effectivement, c'était parfois parce qu'ils n'avaient pas fait d'études. Et donc, je trouve ça marrant de se dire à quel point le paradigme a changé et maintenant, c'est au contraire devenu limite plus cool que de faire...
Mais trop,
sais pas, ouais.
C'est devenu trop cool. Moi, je prédis des générations de dépressifs parce qu'on leur dit aujourd'hui que tout le monde peut être entrepreneur. Je ne le pense pas. Je ne pense pas que tout le monde puisse être entrepreneur et je ne pense pas que ça soit une fatalité. On n'a pas besoin d'être entrepreneur pour réussir sa vie. On peut être intrapreneur, vivre à côté d'entrepreneurs, partager leur aventure. La première chose dont ont besoin les entrepreneurs, c'est des équipes. Il n'y a pas de leader sans follower. Donc,
Dans les boîtes, on a besoin de numéro 2, de numéro 3, de numéro 10, numéro 25. Donc, il faut arrêter de dire à tous les jeunes qu'ils doivent absolument être entrepreneurs. Il y en a qui sont faits pour l'être, qui ont les qualités. Et même parmi ceux-là, il y en a qui ne vont pas y arriver. Ouais. Parce qu'ils vont se gâcher, parce qu'ils vont se tromper, parce qu'il va y avoir des problèmes de maturité, parce qu'ils ne vont pas savoir dépasser leurs peurs. Pour moi, entreprendre, c'est une espèce de grande psychothérapie. On te tend un miroir tous les jours et tu es face à tes défauts, tu es face à tes forces et tes faiblesses, tu es face à tes peurs, tu es rationnel comme irrationnel. Et en fait, c'est ta capacité à surmonter tout ça qui fabriquera le succès dans tes projets ou pas. Pas le succès en général, le succès dans tes projets ou pas. Entreprendre, c'est une aventure en soi, de mon point de vue.
Complètement. Écoute, j'aime beaucoup ce que tu dis et j'espère que les auditeurs vont en prendre bien compte, parce que c'est vrai que c'est pas un discours commun, finalement, ce que tu dis là. Et je trouve que c'est intéressant de rappeler que finalement, on n'est pas obligé, enfin, pour trouver du sens dans son job, on n'est pas obligé d'entreprendre. On peut déjà accompagner un entrepreneur, comme tu le disais, ou juste trouver un sens ailleurs. Donc, merci pour le message. Et tu m'as fait une belle transition, parce que je voulais évidemment commencer à parler évidemment de Imakina, donc ton grand succès quand même, qui est devenu un acteur incontournable du monde du digital. Donc en 20 ans à peine quand même, quand tu y penses, c'est assez dingue. Et alors j'ai une question peut-être un peu stupide, tu vas me dire, mais en fait, je vois tellement de boîtes qui se sont lancées dans le secteur du digital. Enfin, c'est devenu quand même un Eldorado pour beaucoup.
Bien sûr.
Il y en a des, je ne sais pas s'il y en a des millions, mais en tout cas, il y en a des centaines de milliers, sans problème. Ouais. Si on prend beaucoup de recul une fois encore, qu'est-ce qui fait pour toi les grands facteurs clés de succès? Alors, j'imagine que c'est très compliqué de répondre, mais les grands facteurs clés de succès qui font que toi, Manuel, avec Imakina, tu as réussi à construire une boîte aujourd'hui qui a, si je ne me trompe pas, plus d'un millier de collaborateurs, qui est un peu partout dans le monde, qui est une vraie référence en marketing digital. Et qu'est-ce qui fait que 99,9,9% de ceux qui se lancent dans ce domaine ou qui se sont lancés parfois à la même époque que toi se sont plantés?
Il y a plein de facteurs, mais je vais essayer d'en citer quelques-uns. Mais déjà, on sait qu'il y a un taux de mortalité dans la création des boîtes, quel que soit le secteur, pas que le digital, qui est assez élevé dans la première année, puis dans les 5 premières années. Pourquoi ? Parce que dans la première année, tu valides à peu près ton modèle. Nous, on a été rentable dès la première année. Et puis, on a fait des trucs complètement has-been. Tu te rends compte qu'on allait voir des clients, on leur envoyait des factures et ils les payaient. Complètement has-been comme modèle économique. Ça a marché, en fait. Donc, nous, on a procédé comme ça. Aujourd'hui, je sais qu'on doit être obsédé par le fait de lever de l'argent, de se donner du temps, etc. Je rappelle quand même qu'une start-up, techniquement, c'est une boîte en faillite.
Tout à fait.
Faut quand même pas oublier. Et après, on injecte de l'argent dedans et on se dit...
Pour boucher les trous, quoi.
Est-ce qu'on va avoir le temps de prouver qu'il y a un modèle économique? Parce qu'il faut injecter de l'argent, il y a un niveau d'investissement nécessaire pour le temps de rencontrer son marché. Bon, je caricature un peu, mais on n'est pas très loin de ça. Nous, on n'est pas du tout procédé comme ça. Donc ça, c'est la première chose.
Donc vous avez été rentable from day one, quoi.
Ouais, dès la première année. Le premier bilan, y avait des résultats. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que on n'était pas absolument collé à des modèles d'entrepreneuriat appris à l'école, quoi. Donc, on a beaucoup drivé l'entreprise au bon sens, au réalisme et à la passion. Alors évidemment, après, t'apprends, quoi. C'est-à-dire que comme tu n'as pas fait de cours de finance, etc., etc., t'es obligé de bosser quand t'as fini ta journée pour driver ta boîte. En fait, t'as deux jobs. T'as créer ta boîte, satisfaire tes clients, engager tes premiers collaborateurs, manager. Donc ça, c'est toute la journée. Et le soir et la nuit, apprendre ce que tu n'as pas appris par ailleurs pour essayer de driver l'avenir. Donc tu gères le présent et le futur. Donc ça, c'est ton occupation le jour et la nuit.
Tu m'as dit que tu dormais pas beaucoup. Donc
Non, moi je dors en à peu près 4 heures en moyenne. 5 heures, c'est une grosse nuit. Voilà.
Et donc, sans en souffrir, pas de perte de productivité. Enfin, c'est vraiment ton besoin.
C'est mon rythme. C'est mon rythme.
Bon, ça aide à lire beaucoup, ça, c'est sûr.
Ça donne du temps.
Ouais.
Ça donne du temps. Les journées commencent très tôt.
T'as de la chance.
Voilà, donc ça donne du temps. Donc ça, c'est un premier facteur. Le deuxième, c'est de essayer de comprendre son marché avec humilité. Mmh. Je pense qu'il y a quelque chose qui a été très important dans notre histoire, c'est aussi l'internationalisation. Comprendre que notre secteur, nous qui sommes une agence conseil en business digital, on a compris que rester en France allait être un facteur de faiblesse. Donc l'internationalisation, ça a été un sujet très, très important. Donc dépasser ses frontières, aller sur d'autres marchés, voir le dynamisme d'autres marchés, profiter de marchés qui vont plus vite que le tien, etc., etc., et construire autour de cette internationalisation qui nous amène aujourd'hui à être dans plus de 20 pays, etc., etc. Ok. Ensuite, c'est tous les jours avoir la passion de ce qu'on fait. Ma passion n'a pas à décliner. Et évidemment, quand ta boîte grandit, que tu changes ta condition sociale. Moi qui viens d'un milieu modeste en province, tu vois, avec le temps, j'ai gagné plus d'argent, j'ai eu plus de moyens. J'ai évidemment déménagé à Paris, mais pas pour me faire kiffer d'être à Paris, pour suivre le marché. Notre pays n'ayant jamais fait sa décentralisation, il fallait être là. Je suis venu à Paris et j'avais pas de passion pour Paris, au contraire d'ailleurs. Et c'est le propre d'un entrepreneur de se dire ça me fait un peu peur, c'est pas mon truc, etc. Mmh. Mais je vais dépasser ça et je vais en faire un avantage. Aujourd'hui, quand je suis loin de Paris, et ça m'est arrivé assez souvent dans ma vie, Paris me manque au bout de 72 heures en fait. L'odeur, les rues, l'ambiance, etc. J'adore Paris. Transformer les difficultés en opportunités, je pense que c'est aussi un truc qui est caractéristique de la capacité à s'en sortir un peu plus, etc. Et puis après, il y a une histoire de bon tempo aussi, c'est d'être sur le bon segment de marché au bon moment, avec la bonne offre, etc. Et puis, je crois, pour en citer un dernier, c'est les équipes, c'est la capacité à s'entourer.
Mm-mm.
Moi, mon vrai job tous les jours, c'est de sélectionner les talents, de les voir, de les sentir, et pas que au recrutement, tous les jours. Quels sont leurs moments de vie,
fleurir, tout ça.
C'est quoi leurs difficultés dans la vie en ce moment, c'est quoi leur challenge, ce qui les excitait hier va peut-être pas les exciter demain, c'est de faire du sur-mesure pour les carrières à maximum, d'être le plus accessible possible. Moi, tous les collaborateurs de l'agence ont mon mobile, chat avec moi dans Workplace. Je suis pas, enfermé, claque muré dans un bureau, devant des fichiers Excel. Ça m'intéresse pas du tout. Et je pense que quand tu continues à être un entrepreneur et que tu ne te transformes pas en patron, gestionnaire, ça met un dynamisme dans ta boîte qui l'aide à surmonter les difficultés du marché, de la crise, parce qu'on s'est quand même tapé l'explosion de la bulle des années 2000, la crise économique. Là, on va en vivre une autre, avec le Covid, etc. On voit bien qu'on est dans une crise, mais moi, j'y vois plus une opportunité. Je pense que le meilleur agent de transformation de notre économie et des business models, ça a été le Covid. C'est pas les CEO des boîtes, c'est pas les chief digital officers.
Transformation digitale, là, je pense qu'on est pas mal là.
Ah bah oui, c'est énorme. Tous les mecs qui vendent du conseil sur la transfo digitale se sont fait doubler par un virus.
Ah, c'est clair.
Voilà, désolé pour eux, mais en même temps, ça va être une extraordinaire opportunité de repenser nos boîtes, de repenser le lien social dans nos boîtes, de considérer le travail comme autre chose qu'un lieu. C'est formidable, en fait.
Mmh. J'ai 1000 questions.
Allons-y.
J'ai 1000 questions. Un point que j'ai trouvé assez fort dans ce que tu disais, c'est donc, tu disais que c'était aussi la passion qui avait fait l'une des raisons qui faisait que tu étais toujours aussi impliqué, évidemment, et qui était une des raisons du succès de Imakina. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu parlais au début, tu disais ta passion, finalement, c'était l'informatique, le code, etc. Comment est-ce que, du coup, tu fais concilier ça avec le fait que ton job, il a complètement évolué? Parce que maintenant, alors, j'ai compris que t'es pas patron, enfin, t'es entrepreneur patron. Mais je pense que c'est une question importante pour beaucoup justement d'entrepreneurs quand ils passent, tu vois, de en gros je fais à je fais faire, et du coup maintenant ma vie c'est autre chose, et puis ma passion ça va être quand même un peu autre chose.
Alors, je crois qu'il y a deux dimensions dans cette question, si je ne me trompe pas. La première, c'est comment on passe d'un mec autiste qui parle à des machines à un mec qui va conseiller de grandes marques.
Je ne l'ai pas dit comme ça.
Mais bon, je t'aide. Et ensuite, comment on scale, en fait. Comment on va grandir, ouais. Etc., etc.
Tout en restant passionné, quoi.
Tout en restant passionné. Alors, la première partie de la question, c'est qu'à un moment... Moi, je fais partie des ultra timides. Pourtant, j'ai fait des confs aux US devant des salles à Las Vegas, devant des salles de 3000 personnes.
En plus, après Seth Godin, donc avec une petite pression.
Donc, ça te met un peu de pression. Donc, comment on passe de ça à ça? À un moment, quand tu te dis c'est la seule voie possible, c'est surmonter cette peur. Surmonter cette peur d'être jugé. Surmonter cette peur, toutes les peurs qu'il y a derrière cette timidité. Et tu te dis, mais en fait, le désir qui se cache derrière cette peur de s'accomplir est plus grand que ma peur, donc j'y vais. C'est là que tout change. C'est là que tu commences à déployer tes ailes et à montrer vraiment un peu plus ton envergure, etc. Bon, voilà. Donc, à un moment, c'est un déclic. Je pense qu'il faut se regarder. Tu sais, c'est des fois, tu vis des scènes dans une vie où tu es l'acteur de la scène, mais c'est un peu aussi comme si tu la regardais de l'extérieur. Et tu te dis, mais je ne peux pas être con à ce point. Tu vois, je rêvais de dire ça, je n'ai pas osé le dire. C'est quand même dommage. À force de gâcher des opportunités, de gâcher des rencontres, des mains tendues, etc., tu finis par un moment te dire, c'est trop con. C'est trop con. Ça me fait trop mal. J'avais cette opportunité il y a 2 ans, je ne l'ai pas prise. Je me souviens, ça m'a encore laissé des traces mémorielles. Il faut que je le fasse. Il faut vraiment que je le fasse. Donc, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur comment on fait évoluer sa compétence de base et comment on scale. Parce que j'ai lu plein de trucs sur d'autres entrepreneurs, moi j'ai un leitmotiv dans la vie qui est de faire en sorte d'être le moins indispensable possible. C'est-à-dire que moi je suis ravi d'arriver au bureau et de me dire qu'on n'a pas besoin de moi. De voir que des réunions ont lieu, je ne suis pas dedans, que des décisions se prennent et je ne suis pas dedans. Moi j'essaye d'être complètement inutile.
Mais est-ce que ça a toujours été le cas?
Non, évidemment. Au début, tu as besoin de faire. Et tu es même, moi, j'étais même dans un modèle un peu contrôle fric.
Ouais.
Parce que ta connaissance, tu l'as construit sur le fait de faire. Donc, tu as besoin de faire. Mais très vite, tu comprends que ça va te mener pas très loin. Parce que tu ne peux pas te démultiplier. Donc, comment tu vas faire quand tu vas avoir 3 clients? Tu ne peux pas faire 3 meetings en même temps. Comment tu vas faire quand tu auras besoin de compétences que tu n'as pas? Il va falloir développer la confiance, la qualité de briefing, la relation de travail, la complémentarité. Donc, très vite, je pense que c'est un des conseils que je donne le plus souvent, c'est se mettre dans la peau d'un mec qui se dit « si je ne suis pas là, ça tourne quand même ». Et il faut que ça tourne. C'est l'antithèse de l'ego. Tu vois, on dit souvent, pour diriger des boîtes, il faut un énorme ego, etc., etc. Mais en fait, pour moi, c'est tout le contraire. Oui, il faut de l'ego. Oui, il faut savoir où tu vas. Oui, il ne faut pas avoir peur de tes opinions et de ta stratégie. Mais ton boulot de dirigeant, c'est de définir le cap et la stratégie. Ce n'est pas d'être dans les micro-détails de tout. Sinon, si tu recrutes des gens pour qu'ils ne soient que des bras et pas des cerveaux, ça ne sert à rien. Tu vois, recrute des machines. Moi je veux des gens autour de moi qui sont plus intelligents que moi, qui vont plus vite, qui ont des processeurs qui calculent plus vite que le mien, qui ont plus de RAM que moi, pour faire une analogie tech, et qui ont une vitesse de processing très 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 élevée, auprès desquels je me sens plus fort, plus intelligent par leur compagnie. Parce qu'ils vont compléter mes idées, parce qu'ils vont s'opposer à moi.
J'insiste un peu dessus parce que je trouve le sujet ultra intéressant et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, comprennent ce que tu dis intellectuellement. Mais tu vois, le gut feeling, c'est qu'en fait, ils ont envie de ne pas être indispensables. Ils savent que ce que tu dis est vrai. Mais en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ils ne peuvent pas s'empêcher parce que, ben voilà, c'est leur boîte, c'est leur bébé, c'est leur truc. Et du coup... ils deviennent complètement aigris dès que quelqu'un fait quelque chose tel qu'il ne l'avait pas imaginé. Et toi, tu as réussi à faire ce shift, alors qu'en plus, d'après ce que tu dis, tu étais un peu contrôle freak au début. Donc, je ne sais pas si tu arrives à essayer de donner quelques clés, peut-être, pour qu'on essaye de se dire, bah, en fait, comment est-ce qu'à un moment donné, tu te dis plus, OK, c'est ça qu'il faut que je fasse, mais je le fais.
Bah, un truc, une phrase que j'ai volée, évidemment, mais c'est « One is better than zero ». À un moment, il vaut mieux que ça soit fait différemment, pas comme tu l'aurais fait toi, etc., etc. Mais fait plutôt que pas fait.
Ouais, ouais.
Parce que ça met de l'entrain, ça met en mouvement. La différence entre les bonnes idées et les mauvaises idées, c'est les bonnes idées, elles sont en mouvement. Les mauvaises idées, elles sont dans un carnet, sur un iPhone, à l'état de gestation, mais elles ne sont pas vivantes. Et un truc qui ne bouge pas, c'est mort. Donc moi, ce que j'attends de mes équipes, c'est qu'elles mettent les trucs en mouvement. Tu vois, un truc qu'on dit souvent, break things, but do it fast. C'est exactement ça. C'est plante-toi, fais-le. Sinon, tu n'essayes pas. Et c'est pas en restant coincé dans ton cerveau, dans ta tête, en imaginant toutes les hypothèses, que tu vas arriver à apprendre quoi que ce soit. Il faut faire. Et on n'a pas... Nous, en France, on a ce... On est des intellos, on est des cérébraux, on aime la beauté des raisonnements, etc., etc. On adore ça. Moi-même aussi. Mais il faut prendre le côté doueur des anglo-saxons. Dans notre industrie, on regarde beaucoup de ce côté-là de l'Atlantique. Parce que si on n'a pas ce côté doueur, dans un monde qui va très vite, où tout change à une vitesse redoutable, où les paradigmes sont bouleversés par une technologie, une boîte, une innovation, eh ben, c'est la vitesse qui prime. Donc ne pas faire, c'est s'empêcher d'avancer. Donc il faut absolument faire. Voilà, c'est tout.
Complètement, je pense que ça, c'est vraiment les paroles de l'entrepreneur, quoi. C'est... si on revient sur le sujet de l'international, tu en as parlé aussi comme un des facteurs clés de succès. Et là aussi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a peu de boîtes qui arrivent. Et en France, je ne suis pas sûre qu'on soit hyper bon pour aller à l'international. Mais par contre, évidemment, quand tu me l'as dit, ça paraît évident qu'une boîte dans le business digital doit être internationale. En gros, à partir de combien de temps est-ce que tu as décidé de le faire? Et puis, quelles ont été les premières étapes pour se lancer?
À 9 ans. 9 ans de boîte. On a commencé à se dire que si on restait sur le marché français, on ne vivrait que sur les budgets français. Alors, je ne sais pas si je peux citer quelques clients pas, mais c'est pour illustrer le propos.
Bien sûr.
On travaille pour des grandes marques internationales. Pour en citer quelques-unes, on pourrait dire... Nike, des marques de luxe, tu vois, voilà, bon, peu importe. Si tu es une très bonne agence locale, t'es connecté au mec qui gère le marché français. Lui, son focus, c'est d'écouler ses produits sur le marché français, d'amener les meilleurs résultats à son boss sur le marché français, etc. Donc, tu bosses sur le périmètre de son focus à lui. Si tu veux grandir, si tu veux pas être dépendant du fait que en ce moment, l'économie française est moyenne et donc on va baisser les budgets et donc pour toi, tu as moins de taf. Eh ben, il faut aller chercher les marchés les plus dynamiques. Et donc, si tu veux absolument accompagner une marque d'un point de vue global, ne pas être que le mec qui fait la petite stratégie sur ce petit morceau de pays, etc., il faut être capable de dire à cette marque, moi, je peux vous accompagner de l'Asie aux États-Unis complètement. Alors, on n'y est pas arrivé d'un
tout
coup.
Tout de suite, ouais.
Hein, d'abord, tu fais l'Europe. C'est déjà un concept.
C'est clair.
On le voit bien là en pleine crise Covid parce que tu as vécu mes problèmes d'agenda et merci pour ta patience. L'Europe, elle est un peu théorique sur certains aspects. Le droit du travail n'est pas le même, le droit social n'est pas le même dans tous les pays, etc. Ça a été un énorme travail pour nous de coordonner cette crise même de l'Europe. Alors que notre épine dorsale chez Imakina, elle est quand même très européenne. On s'est construit sur l'approche Europe continentale au début, et puis ensuite l'Asie, et puis ensuite les États-Unis, et puis le Moyen-Orient, etc. Donc, la seule façon de faire les choses en grand et de capter les moyens et les budgets qui vont en face de grandes idées globales, c'est de s'internationaliser et de dire à une marque, je suis capable de t'accompagner dans une stratégie follow the sun, où finalement, quand tu regardes les bureaux d'Imakina, eh ben, y a toujours un Imakinien, c'est comme ça qu'on appelle nos collaborateurs, debout, H24-7, pour répondre à un client.
Mm. Et ça, donc en fait, vous l'avez fait du bureau de Paris, mais en proposant à vos clients d'élargir quoi, le scope.
Attention, petite précision, le siège français est à Limoges. Et reste à Limoges.
Ça fait plaisir.
Tu vois, je suis né à Limoges, on a démarré à Limoges. Le siège français reste à Limoges. Paris n'est qu'une succursale.
D'accord. Donc
ça
en
me fait,
ça de
me
Limoges.
Fait marrer de le dire comme ça.
C'est clair, c'est énorme. Ouais, mais du coup, en fait, vous ne l'avez pas fait parce que je pense qu'un risque aussi, parfois, c'est de vouloir ouvrir des bureaux à tout va quand on débute. Et là, je vois, bah, comme souvent, d'après ce que je comprends dans ce que tu fais, beaucoup de pragmatisme au sens où tu commences en fait en restant là où tu es, mais tu vas aller démarcher en disant bah, je peux ouvrir en fait mon offre un petit peu plus largement. Quoi.
On a construit notre croissance internationale sur nos clients.
Mm.
Moi, je me souviens d'un client qui a beaucoup compté dans notre histoire, c'est Business Objects. C'était créé par Bernard Liotot, un Français. Et c'était les prémices de la data intelligence. C'est lui qui a écrit un bouquin fabuleux, je ne sais pas si on le trouve encore, qui s'appelle « Transformer la donnée en intelligence puis en profit ». Je ne sais pas si on le trouve encore, mais c'était... Et on est dans les années 2000 hein, quand il dit ça. Mmh. Donc, c'est il y a 20 ans.
Oui, il est un précurseur, quoi.
Qu'il a revendu à SAP. Ben, on a construit notre croissance sur nos clients. Nos clients adoraient ce qu'on faisait pour eux en France et ils disaient « Mais putain, merde, j'ai une agence là en Italie, ils sont nuls. Il faut que je les briefe 4 fois, ils vont moins vite que vous. Vous pourriez pas m'aider ?» Et alors nous, on lui disait « Mais j'ai pas de bureau en Italie, mais bien sûr, par contre, je peux t'aider.
Ouais. »
Et donc, c'est à partir de là que tu commences pragmatiquement à construire ton internationalisation sans forcément être présent physiquement là-bas. Mais à l'heure du web, faire un site e-commerce, une page web qui marche pour le marché italien, tu peux le faire depuis Paris ou nos gens le retrouvent, hein, on s'en fout.
Ou Limoges en l'occurrence.
Ou Limoges. Faut arrêter avec Limoges. Hein,
mais c'est une très belle ville.
Voilà. Je n'irai peut-être pas jusque-là, mais c'est agréable d'y vivre.
En tout cas,
y a une bonne qualité de vie. Voilà, on a démarré comme ça. Et puis après, quand ça devient sérieux, c'est-à-dire que tu as des clients qui disent « Ah, mais c'est génial, vous l'avez fait vachement bien et tout », ça vous dirait pas qu'on structure des relations de travail ensemble? Ben si, ben regardez, ben moi je peux ouvrir un bureau, ça me coûterait tant, vous pourriez m'assurer quoi comme contrat? Et tu te retrouves à coopérer avec tes clients, dans le premier sens du terme. Et ils deviennent des sortes de business partners. Et ça nous est arrivé plein de fois. J'ai cité Business Objects, mais Unilever et plein d'autres marques qui sont clientes chez nous. On nous ont aidés dans notre croissance. On essaye d'avoir des réunions de clients où on ne parle pas du tout de leur projet, on parle de l'agence. On leur dit, mais qu'est-ce que vous aimeriez que Imakina fasse pour vous simplifier la vie?
Ouais.
Et tu as des mecs qui disent, ah ben en ce moment, là, moi, je ne suis pas du tout content de ce que j'ai comme prestation de business digital à Dubaï. Vous m'aidez dans 13 pays d'Europe. Ça m'aiderait vachement que vous y soyez.
Mm.
Bah ok, allons-y, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que moi je peux faire? Comment on peut faire ensemble? Voilà, c'est comme ça qu'on a fait. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais je dis, c'est comme ça qu'on a fait. Moi je dis toujours, il y a 3 façons de faire les choses. La bonne façon, la mauvaise façon et ma façon. Donc voilà, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas pour nous ça a fonctionné.
Mais et alors, est-ce que, question subsidiaire pour toi, est-ce que cette méthode, en fait, d'inclure les clients pour finalement vous faire évoluer, a été aussi utilisée pour développer ton activité sur d'autres secteurs? Parce que tu me parlais du fait que finalement, vous êtes donc un groupe maintenant, avec un certain nombre de secteurs d'activité. On parlait de votre rôle d'agent aussi, par exemple, pour des youtubeurs, etc. En fait, ce sont plein de métiers qui se sont ajoutés avec le temps et qui font aussi que la boîte a vachement grandi. Donc, tant au niveau, on va dire, géographique qu'au niveau vraiment sectoriel. Ça aussi, je trouve ça intéressant de savoir, ça vient... Est-ce que c'est l'idée qui vient de toi ou tes collaborateurs, ou en fait, vous partez toujours du client comme ça?
Donc, moi, notre passion, c'est de résoudre les problèmes de nos clients. Et comme le marché avance, au début, tu fais des sites web parce qu'ils n'ont pas de site web. J'ai même appris à des clients à envoyer des emails. Il faut quand même le savoir au tout début. Parce qu'il savait envoyer des fax, mais pas d'email.
Ouais.
Donc, tu fais des sites web. Et puis ensuite, les clients te disent, bon, c'est super, j'ai un très beau site web et tout, mais il n'y a pas assez de gens qui le voient. Ah ben tiens, on va dans le marketing digital. Donc, la question de comment on drive du trafic, le SEO, etc., etc. Enfin, toutes ces questions-là. Et puis ensuite, ils disent, ah ben c'est super, je fais des sauts dans le temps à chaque fois, hein, mais ils disent, c'est super, mais comment ça, les gens qui passent sur mon site web pourraient devenir des leads? Donc, comment je peux leur prendre un tout petit peu de données, si possible proprement, pour continuer la conversation avec eux et les intéresser à mon business? Ah ben tiens, tu rentres dans le CRM, dans les logiques de lead generation et de lead nurturing, hop, un autre métier. Et ça s'appelle Imakina Direct. Mmh. Et puis, comment je fais parler de mes produits hors de mes écosystèmes? Ça, c'est les créateurs de contenu ou influenceurs. C'est Imakina Influx. Tiens, oui, on a des super créateurs de contenu dont on est agent qui peuvent parler de certaines marques, certains produits qui vont amener du trafic, de la visibilité et le value for money est des fois meilleur que l'approche publicitaire, en tout cas complémentaire. Moi, je pense pas que ça se substitue, mais en tout cas, c'est très complémentaire. Et en fait, notre passion, c'est de résoudre les problèmes de nos clients à maximum en restant très verticaux sur ce qu'on sait faire. Dans une approche très intégrée et c'est de créer de la valeur pour nos clients. Nous, on est ravis quand un de nos clients nous dit « Mais attends, en 14 mois, j'ai fait 230% de croissance.
C'est sûr que après, avant, il est content après. Du service, quoi.
Voilà. Et tu es là et tu dis bah, « C'est super. » Et en plus, comme on s'est comité avec eux, on est aussi ravis parce qu'on a aligné nos intérêts avec eux. Donc, quand ils gagnent, on gagne. Et c'est ce qui nous permet d'ailleurs de sélectionner nos clients. Pour donner une idée, je sais que ça choque plein de gens, mais moi, je n'ai pas peur de donner le chiffre. On disqualifie 80% des demandes entrantes. Pas parce que les dossiers sont nuls, ou que, etc., etc., mais parce qu'on veut être sûr d'être aligné avec les objectifs de nos clients, d'être sûr d'apporter de la valeur, d'être sûr d'être complémentaire et d'être dans une relation qui n'est pas une relation marque-prestataire, mais qui est une relation de partenaire de business. Personne ne connaîtra mieux la marque qu'eux.
Bien sûr.
Mais notre métier, c'est d'en savoir plus qu'eux sur le business digital. Donc, s'ils ne reconnaissent pas qu'on leur apporte une plus-value et une vision, ça ne sert à rien. On a un client qu'on accompagne qui s'appelle l'Olympique de Marseille. Moi, je suis nul en foot. Sincèrement, avant d'aller au rendez-vous pour rencontrer... les équipes de l'Olympique de Marseille et le directeur digital Frédéric Kozik, que j'adore, et Jacques Henry, le président de l'OM, etc., etc. Même quand je suis arrivé au premier rendez-vous, je leur ai dit, écoutez, dans le train, pour réviser, j'ai vérifié qu'il y avait bien 11 joueurs dans une équipe. Ça vous donne mon
une
niveau.
Idée de mon niveau, quoi.
Voilà. Mais je pense que si vous avez besoin de spécialistes du foot, vous vous trompez, c'est pas moi et de toute façon, c'est pas ce dont vous avez besoin. Par contre, on peut parler de la valeur de votre marque, de son potentiel d'internationalisation, de comment connecter les bassins d'audience entre eux, de faire en sorte que vos revenus soient moins dépendants du sport, parce qu'un club, c'est une entreprise. Et il a fait un très beau papier sur LinkedIn qui explique l'économie du sport et qu'est-ce qu'il veut faire avec l'OM demain, etc. qui est absolument fantastique. Alors qu'il ne parle pas à tout le monde, hein, parce que les hardcore fans qui ne pensent que sport, sont pas tous convaincus. Mais d'accord. La vision est extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on rentre en résonance avec nos clients. Je pense que d'ailleurs, ça l'a autant étonné que ça l'a fait rire. Il s'est dit, j'ai rencontré un fou. Mais par contre, ce qu'il m'a dit sur la vision stratégique de ma boîte, c'est exactement vers là qu'on veut aller. Et c'est pour ça qu'on bosse avec eux. C'est pas parce que j'y connais quelque chose en foot. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'y connais toujours rien en foot. Hein. Je te rassure.
Je suis rassuré, Emmanuel. Au niveau de la structuration, tu me dis si tu es à l'aise à l'idée d'en parler, mais du coup, vous avez fait le choix de faire un groupe, c'est-à-dire en fait d'avoir plusieurs structures qui cohabitent sous une holding, j'imagine. Alors, ce n'est pas pour être technique pour le plaisir, mais tu aurais pu aussi faire le choix de dire, bah, en fait, on intègre et c'est le CRM est intégré à la partie, lead acquisition ou un truc comme ça. De façon résumée, qu'est-ce qui pour toi a été moteur dans le fait de créer un groupe réellement Et est-ce que c'était peut-être aussi dans un objectif potentiel d'acquisition, j'imagine, d'autres entreprises ?
Oui, alors on est un groupe intégré et on fait des acquisitions. Il y a un chiffre qui est assez parlant sur les 7 dernières années. Comme ça fait au moins un an que je le dis, c'est peut-être plus tout à fait vrai. Sur les 7 dernières années, on a fait 14 acquisitions. Mais ça répond à la question que tu posais tout à l'heure. On est sur un marché de vitesse. Donc, on a besoin de répondre aux problèmes de nos clients rapidement. Mmh. Quand mon client a un problème de CRM ou de lead acquisition, si je me mets à recruter des gens, à peut-être me tromper dans mes recrutements, à trouver une place dans l'organigramme pour ces gens-là, à l'intégrer dans mon offre de service, je vais trop lentement. Mmh. Je ne résous pas le problème de mon client assez vite. Donc, il faut que j'aille plus vite.
D'accord.
Donc, je fais des acquisitions de gens qui sont des spécialistes de ça. Ça a beaucoup d'intérêt. Le premier, c'est la vitesse. Le deuxième, c'est l'expertise. On a des gens qui sont très bons dans ce segment. Le troisième, c'est qu'on injecte d'autres entrepreneurs dans l'entreprise. Mmh. Donc, l'ADN d'entrepreneur est maintenu en vie. Ne serait-ce que par les mécanismes d'acquisition avec les earn-out, etc., etc. D'ailleurs, la grosse majorité des gens dont on a fait l'acquisition sont restés chez nous, même après leur clause de earn-out, en fait. On veut vraiment faire vivre cet ADN d'entrepreneur dans la boîte. Donc, ça nous permet d'être plus vif, plus rapide, plus expert et en plus, plus créatif. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette approche de groupe par acquisition et par intégration. Après, ça demande un effort que de toujours avoir la big picture en tête, de toujours garder vraiment à la façon d'un puzzle comment tu construis l'image petit à petit pour qu'elle reste claire, nette, visible. Donc, il faut regarder loin et il faut avoir plein de parties d'échecs dans ta tête. Tu vois, il suffit pas de savoir jouer aux échecs. Il faut jouer 5, 6, 7, 12 parties d'échecs et te souvenir, quand tu reviens au premier plateau, à quel mouvement t'en étais.
Exactement.
Et face à quel adversaire. Et donc, c'est ça la gymnastique. Mmh. Et moi, c'est ce que j'adore.
C'est hyper intéressant. Et du coup, parce qu'au-delà de se rappeler des 12 parties d'échecs, si je file la métaphore que je trouve géniale, avoir la vision en plus globale du groupe et se dire, bah là, en fait, est-ce qu'on continue à être sur notre ADN ? Est-ce que c'est encore lisible pour les clients, etc. ? C'est encore un autre job. Est-ce que toi, ça, ces dimensions très stratégiques, finalement, c'est quelque chose où tu arrives à te caler du temps pour le faire ? C'est typiquement quand tu dors peu la nuit que tu y réfléchis. Enfin, c'est difficile, je trouve, quand on est entrepreneur et surtout qu'il y a énormément d'activités, de trouver ces plages de temps de réflexion. Et pourtant, c'est indispensable. Comment est-ce que tu fais, toi, pour réussir à les garder ?
Alors, c'est très simple. J'y pense tout le temps. Alors, c'est relié à ce que tu disais sur la délégation et le scale. Moi, je fais tout pour que mon agenda soit le plus inoccupé possible. Pourquoi ? Parce que je veux l'occuper avec mes sujets. Je veux l'occuper avec de la strat. Je veux l'occuper avec des RH. Aller voir les gens chez moi et les écouter. Je veux aller dans les tranchées, à côté des développeurs, sur les desks pour écouter quel est leur problème. Parce que dans la bouche d'un développeur, tu peux avoir les symptômes d'un problème stratégique. Mmh. Je vais aller chez les clients, pas pour leur parler du projet qu'ils sont en train de faire avec nous. Il y a des tonnes de gens extrêmement compétents dans nos équipes qui leur parlent de ça toute la journée, mais pour leur parler d'eux, de leurs problèmes, de savoir où, tu vois. Donc de la strat, j'en fais tout le temps. Et puis, je suis un monomaniaque du temps.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
C'est assez simple, ça tient en une phrase. La seule chose qu'on ne peut pas te rembourser dans la vie, c'est le temps. Tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre des biens matériels, etc. Mais le temps, on ne peut pas te le rembourser. Donc, il y a une légende qui n'en est pas une d'ailleurs, qui fait que moi, dans mon Google Agenda, mon slot de rendez-vous de base, c'est 8 minutes.
Donc là, je suis assez flatté, je t'avoue.
Mais là, c'est l'exercice qui veut ça. Mais c'est, oui, mais c'est justement pour avoir ce luxe de passer du temps choisi. Mmh. Mais souvent, quand je rencontre des jeunes collaborateurs de l'agence pour la première fois, etc., Il demande comme ça dans les bureaux, il dit mais c'est bizarre, le request meeting que j'ai reçu, c'est 8 minutes, il y a une erreur. Et là, t'as les mecs qui leur disent non, non, il n'y a pas d'erreur, tu vas voir. Et il m'est arrivé une ou deux fois, je te raconte une anecdote.
C'est incroyable, hein. C'est trop drôle.
Il m'est arrivé une ou deux fois d'avoir des gens qui rentrent, qui viennent ici dans le bureau, ou qui me disent bon, on a rendez-vous ensemble, par contre, on n'a que 8 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Et je leur dis assieds-toi. 8 minutes, c'est trop court pour me dire ce que tu as à me dire. T'es d'accord ? Il me dit, bah oui, j'ai préparé des slides. Alors ça aussi, moi je leur dis, arrêtez les slides. Hein. Moi, je n'ai pas besoin de slides. Tu me parles, tu me regardes dans les yeux, tu me parles. Je n'ai pas besoin de slides pour réfléchir. Je pose mon iPhone sur la table, je mets un chrono à 8 minutes et je lui dis, maintenant, tu ne parles plus pendant 8 minutes. Et à la fin, il a trouvé le temps long. En 8 minutes, on fait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc moi, je suis une espèce de monomaniaque du temps. Je fais aucun déj client. Je ne vais à aucun événement. Je ne fais aucune soirée. Tout ce qui se dit la nuit ne verra jamais le jour. C'est ma devise. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens de chez nous qui y vont, ou qui participent à l'écosystème,
bien sûr.
Ouais, mais c'est
etc.
Mais moi, je n'y vais pas. Y a, évidemment que Imakina a besoin d'y être. Mais pas moi. Moi, ce n'est pas ce qu'attendent mes clients et mes actionnaires et mes partenaires de moi. Moi, je traite le temps comme la denrée la plus rare de notre existence. On a une existence qui va tellement vite et qui va tellement, tellement être anecdotique. Donc, essayons d'en faire quelque chose d'exceptionnel et de ne pas le gâcher dans des hésitations, dans des temps perdus, etc. Alors, je sais que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que soi, et que ce que je dis là va peut-être intéresser des gens, je l'espère, dans ton
j'en
audience.
Suis sûr.
Mais après, il y a la pratique. Il y a des tonnes de gens qui le comprennent, mais qui ne le font pas. Ça ne les empêche pas d'aller prendre des apéros les jeudis soirs, surtout en ce moment, bah, ils sont en manque d'apéros et de terrasses, là, et de rester 2 heures et 3 heures, etc., etc. Moi, je ne sais pas faire ça.
Ouais, mais c'est juste pas quitté. Enfin, tu vois, je veux dire, peut-être eux n'ont pas ce besoin aussi de faire en permanence.
Mais, dans ce cas-là, il faut être honnête. C'est-à-dire qu'il faut phaser ses prétentions avec ce qu'on est capable de faire.
Tout à fait.
Moi, ce qui m'insupporte, c'est de voir des gens qui ont des prétentions extrêmement élevées, mais qui ne sont absolument pas capables de mettre en pratique
ce
qui va avec. Ça me pose un problème. J'ai aucun problème avec passer 2 heures en terrasse avec des potes à boire des verres. Hein. Ça me pose pas de problème qu'il y ait des gens qui fassent ça. Et ça m'arrive moi-même de le faire de temps en temps, peut-être 2 ou 3 fois par an, parce que j'ai du plaisir à voir quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps et qu'il va me falloir un peu de temps pour en profiter. Mais dans ce cas-là, il faut être conscient de ce qu'on ne fait pas pendant ce temps-là. Il faut être conscient de ce que l'on peut gâcher. Je suis trop long, sûrement.
Pas du tout. En fait, ça me rappelle une phrase que j'avais vue, il me semble que tu avais dite, qui était « choisir, c'est renoncer ». Et je sens cette compréhension permanente de ce que tu n'es pas en train de faire. Enfin, en gros, là, on est en train de passer du temps ensemble et du coup, tu n'es pas en train de faire chose. J'espère que tu n'es pas en train d'y penser actuellement.
Non, mais
c'est hyper intéressant et surtout, j'aime beaucoup cette notion de se dire, moi, je le fais, donc en fait, je suis responsable de ça et je me suis donné les moyens, tout simplement. Et tous ceux qui se plaignent, arrêtez de vous plaindre parce qu'au final, vous n'êtes que logé à l'enseigne de ce que vous faites, tout simplement.
Exactement. Et c'est du respect pour soi. Moi, j'appelle ça de l'hygiène intellectuelle. Et c'est du respect pour les autres. Et quand je suis avec les gens, je ne suis pas sur mon téléphone. Là, il est en mode avion, mon téléphone. Quand je suis avec les gens, je le suis pleinement. Alors, je le suis peut-être que 8 minutes, mais je le suis pleinement. Et je supporte pas l'idée de papillonner, d'être là sans être là, de faire de 3 milliards de trucs en même temps. Parce qu'à la fin, on fait rien. On finit par être moyen en tout.
Est-ce que tu as quand même eu la sensation de faire des sacrifices? Parce que finalement, quand on t'écoute là, on peut se dire que c'est tellement important pour toi qu'au final, le fait de bosser, c'est pas un sacrifice. Ce qui est le cas pour moi. Hein. Tous les gens que je connais me disent « tu travailles beaucoup », mais en fait, j'adore ça. Et du coup, effectivement, j'ai pas l'impression de travailler. On parlait avant de commencer du fait que tu avais pris l'avion, je ne me rappelle pas combien de jours par an sur les dernières années, enfin, c'était un chiffre absolument monstrueux.
Plus de 260 jours par an, oui.
Voilà. Est-ce que quand même, malgré tout, il y a une notion de sacrifice dans ce que tu fais, de difficulté, tu vois, finalement, de devoir se botter les fesses, ou finalement, parce que tu as cette notion permanente du temps qui passe, non, en fait, tu sais que tu dois être en train de faire, il n'y a pas le choix.
Je suis plus dans la deuxième option, clairement. J'ai besoin d'être sûr que le temps que j'alloue à faire quelque chose est issu d'un choix que j'assume pleinement. Donc, je peux accepter de ralentir, par exemple, pour quelqu'un, parce que cette personne en vaut la peine. Mais je ne peux pas accepter de ralentir pour quelqu'un qui ne va pas se donner les moyens ou qui va rechigner. Ça, c'est absolument pas possible. Auquel cas, je vais tout de suite arrêter et passer à autre chose. Mais j'ai cette notion du temps qui passe parce que j'ai aussi vu des gens disparaître autour de moi trop tôt. En ayant... Tu sais, il y a un truc qui est horrible. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de le faire, mais quand tu as l'occasion, soit pour tes proches, mais aussi peut-être même généreusement, socialement, d'aller dans les maisons de retraite, de discuter avec des personnes âgées, le truc le plus horrible, c'est de voir le regret dans les yeux. Le regret du baiser qui n'a pas été donné. Le regret de la visite attendue qui n'est pas là. Le regret de ne pas avoir dit. Le regret de ne pas avoir dépassé un frein, une difficulté, une peur. Le regret de ne pas avoir mangé son chapeau, ravalé son orgueil. Ça, c'est le truc le plus horrible que j'ai vu dans ma vie. Et je me suis toujours dit, il faut vivre sans regret. À maximum, c'est un objectif. C'est difficilement possible totalement, mais à maximum. Parce que tu ne pourras pas rencontrer 10 000 fois les gens qui sont en face de toi et qui te provoquent cette vibration particulière, cette envie de faire, d'avancer, de te donner, de te dépasser. Et quand tu l'as, cette occasion, tu as le devoir de l'adresser. Tu as le devoir de l'adresser et de passer toute ton énergie, tout ton temps à maximum à ça. Et si ça ne marche pas, tu as été un doueur, tu l'as fait, ça ne marche pas, tu es pragmatique, mais tu passes à autre chose. Mais tu ne regrettes pas. Tu as essayé. Moi, je pense que ce qui est le plus grand venin de la vie, c'est les essais théoriques. Les gens qui sont restés coincés dans « j'aurais pu faire ça, mais en même temps, je n'ai jamais vraiment fait ça, donc je ne sais pas ce que ça aurait donné. » Ou les retours en arrière. « Tiens, j'ai essayé, ça m'a piqué un tout petit peu. » Donc, je reviens vite dans mes valeurs refuges, dans mes régressions habituelles et dans les modèles sur lesquels je sais exactement ce qui se passe. Je contrôle tout parce que là, je suis en sécurité.
C'est ça.
Et ça, c'est terrible parce que c'est vraiment accepter d'être très spectateur de sa vie et d'être entièrement structuré sur les conditionnements qu'on nous a donnés au début. Moi, je pense que l'aboutissement d'une vie, c'est dépasser sa condition initiale. Sociale, humaine, intellectuelle, amoureuse, tout ce que tu veux. Mais c'est dépasser sa condition en s'élevant, au sens premier du terme. Voilà, en se dressant sur soi-même et en disant « je suis plus grand que ça, je suis plus grand que ce qu'on m'a donné comme atout au début, je suis une machine apprenante qui n'a pas peur et qui va vivre sa vie comme une aventure. Voilà.
J'adore. Écoute, justement, la machine apprenante, c'est un sujet que j'aime beaucoup, et toi, en plus, t'es l'exemple même de quelqu'un qui a appris tout seul, autodidacte. Je vois des livres absolument partout, ici, autour de nous, et j'ai l'impression que t'es vraiment ça, une machine à apprendre, ou en tout cas, que c'est une de tes vraies passions. Ça a été quelque chose qui est arrivé dès que tu as lancé ta boîte. Ce besoin presque compulsif de lire, tu me disais que tu étais quelqu'un qui lisait énormément plus jeune. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste complètement moteur? Est-ce qu'il y a une lassitude qui s'est installée? Est-ce que tu peux me parler en fait, de cette nécessité finalement d'apprendre qui t'est très propre?
Bah écoute, je vais reprendre une métaphore de mon coach sportif. On dit toujours il faut boire 1,5 litre ou 2 litres d'eau par jour. Et donc, on lui posait la question il n'y a pas longtemps. Tiens, t'arrêtes pas de boire, t'as soif à ce point. Et il dit, bah non, j'ai pas soif. Mais c'est comme une voiture. T'attends pas de plus avoir d'essence pour mettre de l'essence dedans. Ben c'est pareil avec la connaissance. En fait, le modèle dans lequel on a été élevé au siècle dernier, c'est que tu passes un morceau de ta vie au tout petit, c'est la petite école, la petite enfance, on t'apprend les règles de vie en société. Bon, la connaissance, c'est un prétexte. Mmh. Un autre morceau de ta vie à mettre de la connaissance de ton cerveau. Tout ça se finit autour de 25-30 ans, ça dépend de la longueur de tes études. Et puis ensuite, tu vas exploiter cette connaissance pendant 30 ou 40 ans de carrière. Ce modèle ne tient plus. Donc, c'est pas possible, parce que on ne peut pas exploiter ce qu'on a appris il y a 25 ans. Ce qu'on a appris il y a 25 ans n'est plus valable aujourd'hui dans notre industrie.
Et puis, on n'a plus le sentiment de grandir aussi. Donc,
et puis, on se nourrit pas, on devient plus aigri, etc., etc. Donc, moi, je considère que il faut apprendre tout le temps, apprendre sans arrêt, être curieux de tout. J'aime pas trop les interdits, de façon générale, dans tous les domaines. Ma seule limite, c'est ce qui va te dégrader, te faire du mal ou être illégal. Voilà. Mais j'ai besoin d'avoir cette curiosité-là. Et oui, ça passe par les livres. Mais moi, je peux lire n'importe quoi. Hein.
Oui, donc en fait, parce que c'est une autre question aussi, c'est du coup, est-ce que cette soif d'apprendre, elle est telle que t'es très exigeant du coup dans tes choix, ou finalement t'es tellement curieux que tu vois, tu peux tout autant t'intéresser, je sais pas, au secteur du cognac que à la manière de, je sais pas, de polir du bois, quoi.
Ah oui, mais ça c'est génial, c'est propre à mon métier, c'est-à-dire quand on signe un client, bah, tu parlais de spiritueux, on a des clients dans cette industrie-là, bah, tu vas visiter des lieux extraordinaires, tu rencontres des paysans qui font du vin, qui va se transformer en champagne, tu visites des vignes. Moi, j'ai une curiosité telle que je peux lire 15 bouquins sur la vinification du champagne parce que j'ai un rendez-vous dans 15 jours avec le maître de chez de Dom Pérignon, de Roederer ou de Picard Salmon. J'en ai cité 3 comme ça, on ne peut pas me dire.
Voilà. C'est pas la télé ici, t'inquiète pas.
oui, je peux lire ça, mais il m'est arrivé. Donc, je suis très sélectif dans ce que je choisis parce que, bah, quitte à me nourrir, bah, autant me nourrir avec les ingrédients que je choisis. Donc, tu vois, là, il y a une pile à portée de main. Là, c'est ce que j'ai lu récemment. Il y en a d'autres dans mon sac. Bon, il y en a partout, quoi. Donc, j'essaye de lire des trucs qui m'intéressent ou qui peuvent m'intéresser. Des fois, si ça ne m'intéresse pas, je vais vraiment avancer en lecture rapide et je vais le tomber vraiment vite.
Ouais, t'as pas honte de dire, ok, là, c'est pas bien, je passe, quoi.
Ouais, ou c'est pas pour moi. Mm. C'est même pas que c'est pas bien. Ouais, c'est juste que moi, bah, ça marche pas avec moi. Je suis pas très intelligent, donc il y a des trucs qui m'intéressent, là j'y vais à fond, et il y a plein d'autres trucs très intéressants, mais où moi j'arrive pas à réveiller quelque chose là-dedans, et là c'est plus compliqué pour moi. Mais oui, le tarif habituel, c'est 4-5 livres par semaine, quoi. Donc il faut que j'ai lu, mais il m'est arrivé d'être dans des situations où j'avais vraiment rien sous la main, où épuisé mon carburant, je peux lire le dictionnaire, hein.
Ceci dit, il y a plein de trucs intéressants.
Exactement. Donc, si je me fais vraiment chier, je vais lire le dictionnaire. Je vais pas tomber dans la presse people, quoi. Je vais. Ça me rappelle un Airbnb que j'avais loué où j'avais vraiment épuisé tous les bouquins que j'avais emmenés, mon Kindle. Bon, il y avait pas beaucoup de connexions, etc. Et j'ai fini sur le dictionnaire, en fait, parce que il fallait s'occuper et que ça m'occupait un quart d'heure. Mais je préfère faire ça plutôt que d'être dans mon feed Instagram à regarder de façon compulsive des trucs que j'ai pas choisis et qu'un algorithme a choisi pour moi. Et je suis d'autant bien placé pour le savoir parce que des algorithmes, on en fait. Mm. Donc, quand tu connais les coulisses, des fois, t'as pas trop envie de consommer le produit.
Ouais. Alors, tu m'amènes du coup à une question que je pose souvent, qui est le livre ou les livres qui t'ont le plus marqué. J'imagine que pour toi, ça va pas être facile de m'en citer un ou deux. Mais si tu devais faire un choix, tu vois, un bouquin qui vraiment a transformé ta vie, quoi. Un bouquin qui t'a profondément changé.
Alors, sur le plan du business ou en général ?
Ça peut être, honnêtement, ça peut même être à titre personnel.
Ok, alors qu'est-ce que je vais citer ? Je vais en citer deux. Un truc business. En plus, c'est un pod, donc je suis obligé, tellement c'est fabuleux. C'est le Start With Why de Simon Sinek. Obligé, parce que c'est vraiment tellement puissant comme méthode de raisonnement. Voilà. Et le deuxième, qui est Le Banquier de Platon.
D'accord.
Parce que je pense...
Alors raconte-moi, explique-moi quand même, parce que c'est la première fois qu'on me sort du Platon.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, merde.
Ben non, maintenant, justement, je suis intéressé.
Parce qu'on fait rien sans amour. Et Le Banquier de Platon, c'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour théorisé, l'amour évoqué par les plus grands philosophes de l'époque. On est en, je me souviens plus, mais genre 380 avant Jésus-Christ. Mm. Et tout est dit. Tout est dit. Le carburant des êtres humains, c'est l'amour. Qu'ils le veuillent ou pas. Ceux qui n'en ont pas eu assez, ceux qui en ont eu trop, ceux qui le cherchent désespérément, ceux qui l'ont sous les yeux et qui ne le voient pas. Mais c'est pas autre chose que ça. Même la défiance, même la haine, même l'opposition, c'est une expression de mal-être face à l'amour. Et on se construit sur ses faiblesses. Et Le Banquier, il y a tout. Il y a tout dedans. Donc il faut sincèrement dropper tout ce que vous êtes en train de faire.
Vous sortez Le Banquier de Platon.
Vous sortez Le Banquier de Platon. Ça coûte pas cher, c'est disponible en poche, sous tous les formats, les ayants droit sont plus là. Donc, lisez-le. Mm. Lisez-le.
Et ça t'a fait prendre des décisions, bon, je vais pas être trop personnel, mais ça t'a fait prendre des décisions dans ta vie personnelle, du coup, ce genre de réflexion ?
Bien sûr. À commencer par le fait que pour moi, l'amour n'est pas un genre. Mm. Et le sentiment amoureux. Je sais que c'est ringard de dire ça à notre époque, mais le sentiment amoureux, ça n'est pas que l'attachement et la consommation charnelle. C'est autre chose. C'est bien plus complexe que ça. Et en même temps, extrêmement simple quand on lit Le Banquier. Parce que c'est tellement expliqué facilement. Voilà. Donc, quand on n'est pas à l'aise avec ça, on traverse sa vie avec tellement de frustration. On voit tellement de gens rouler en seconde sur l'autoroute. C'est dommage. Des potentiels gâchés. Mm-hmm. On en voit énormément. Alors, des fois, la frustration est aussi un beau catalyseur. La frustration permet de se dépasser, etc., etc. Mais quand même, quand on est plus à l'aise, quand on vit les choses telles qu'on les ressent, quand on se défait du regard de l'autre, quand on a conscience de la rapidité à laquelle tout ça va passer, etc., etc., on remet quand même un peu les choses dans l'ordre et on se dit « Waouh, je respire, je suis mieux ».
Écoute, Manuel, je t'ai pris déjà un peu trop de temps, mais je trouve que c'est un bon mot de la fin. J'aimerais juste te poser une dernière question avant de te demander tes contacts, etc. C'est si tu as quand même quelque chose dont on n'a pas parlé, un message que tu veux peut-être faire passer, quelque chose, voilà, une maxime, des mots de sagesse, quelque chose que tu auras envie de partager à cette audience du gratin, qu'est-ce que ça serait ?
Ah, une phrase d'Oscar Wilde. J'aime bien cette phrase-là. Il faut avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue à travers le temps.
Je ne la connaissais pas. Il a vraiment l'art de la formule, hein, ouais. À chaque fois.
Je trouve que c'est, que c'est bien dit. Et en même temps, c'est Oscar Wilde. Alors, comment on pourrait le dire mieux ?
Merci mille fois. C'était passionnant. Est-ce que tu peux me dire, donc, au-delà...
Pas compliqué. manueldiaz.fr, mon site. C'est mon blog. Il est pas extrêmement tenu à jour en live, mais en fait, il y a l'essentiel, il y a mes contacts, les liens vers tous mes réseaux sociaux, @manueldiaz sur Twitter, Manuel Diaz sur Instagram, voilà. Et je réponds à peu près tout le temps à tout le monde. Il y a personne qui gère mes réseaux à ma place, hein, donc c'est bien moi qui réponds systématiquement. Donc voilà, et puis ma chaîne YouTube, il y a une bonne idée de ce que je pense du business, de l'entrepreneuriat. Vous tapez Manuel Diaz en YouTube, et puis si ça vous plaît, vous regardez, et si ça vous plaît pas, il y a d'autres choses disponibles dans YouTube. Merci Pauline.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc, sous le pseudo Pauline Legnaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcasts, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.